Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le privilège de traiter dans cette conférence qui va suivre le sujet guerre mondiale, révolution et tremblement de terre. Sont-ils vraiment des signes de Dieu? Nous allons faire une approche surprenante du discours de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. N'est-ce pas, le discours du Seigneur sur le mont des Oliviers est transmis par trois récits dans le Nouveau Testament que vous trouvez dans votre Bible en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Vous avez ici une vue du mont des Oliviers depuis l'esplanade du Temple à Jérusalem. D'abord, j'aimerais expliquer l'historique de ce discours. Mardi avant le Vendredi Saint, durant toute la journée, le Seigneur Jésus était au Temple à Jérusalem. Il y avait des rudes controverses avec de nombreux adversaires dans le Temple. Dans l'Évangile de Matthieu, voilà la description en Matthieu 21, 23, jusqu'à la fin du chapitre 23. Et vous avez les passages parallèles en Marc et en Luc. Et il s'agit là d'une seule journée, mardi avant le Vendredi Saint, avant la crucifixion. Et voilà, tous ces controverses ont révélé que la masse du peuple choisi va rejeter son Messie. C'est pour ça que le Seigneur, à la fin de cette journée, en sortant du temple, il annonce la destruction du second temple comme une conséquence du rejet du Messie. Ensuite, le Seigneur est allé avec ses disciples vers le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Voilà, depuis ces montagnes, on a le plus beau panorama sur l'esplanade du Temple. Cela à cause du fait que le mont des Oliviers est un peu plus haut que le mont du Temple. Et voilà, les disciples choqués par l'annonce de la destruction de cet édifice merveilleux du Temple à Jérusalem, il pose quatre questions. Vous ne trouvez jamais toutes les quatre questions dans un seul évangile. Il faut étudier vraiment en parallèle les trois récits. Et ainsi, vous allez trouver les quatre questions du Seigneur. 1. Quand aura lieu la destruction du Temple? Voilà une question qui se trouve dans tous les trois évangiles synoptiques. Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ensuite, il demande, quel sera le signe de la destruction du Temple? Cette question, vous trouvez seulement en Luc 21, verset 7. Et d'ailleurs, seulement dans cet évangile, vous avez vraiment la pleine réponse à cette question. Il ne faut pas chercher la réponse à cette question en Matthieu, il faut la chercher en Luc. 3. Quel sera le signe de ta venue? Et 4. Quel sera le signe du temps de la fin? Vous voyez, on peut diviser ces quatre questions en deux et deux questions. Parce que deux questions sont en rapport avec le temple. Quand aura lieu la destruction du temple? Quel sera le signe de la destruction du temple? Et deux sont liées au temps du retour de Christ. Quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe du temps de la fin? On peut dire les questions 1 et 2 touchent des événements qui devraient avoir lieu après, juste après la première venue de Jésus. Et les questions 3 et 4 touchent des événements qui devraient avoir lieu juste avant la deuxième venue de Jésus. On peut aussi dire les questions 1 et 2 sont en rapport avec le début et 3 et 4 en rapport avec la fin. N'est-ce pas? La venue de Christ, il y a environ 2000 ans, est appelée en 1 Jean 1 le commencement. Ce qui était dès le commencement, commence Jean dans sa première épître, et il parle de la venue de Christ comme homme autrefois. Donc, voilà, la première venue de Christ, c'était l'époque qui est appelée dans la Bible début d'une nouvelle époque, n'est-ce pas? Et voilà la fin de cette longue époque qui devrait s'étendre entre la première et la deuxième venue. Donc, la fin de cette époque, c'est la fin des temps. Et en rapport avec cette fin, voilà les questions 3 et 4. N'est-ce pas? La Bible, déjà, l'Ancien Testament a annoncé que le Messie viendrait deux fois. Une première fois, comme le Messie souffrant, qui va mourir pour nos péchés afin de nous amener à Dieu. Et beaucoup plus tard, le Messie viendra de nouveau, une deuxième fois, mais comme le Messie triomphant, qui résoudra tous les problèmes qui sont la conséquence du problème du péché, résolu par la première venue. Et le Messie triomphant viendra comme juge du monde, comme roi des rois, pour introduire la justice et la paix sur cette terre. Mais entre ces deux venues, nous avons donc un laps de temps, une époque importante. Mais juste après le rejet du Messie souffrant, voilà, le temple devrait être détruit. Et voilà les questions 1 et 2 des disciples. Quand aura lieu cette destruction? Quel sera le signe juste avant l'événement de la destruction? Et voilà, en rapport avec la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ, et en rapport avec la venue elle-même, les questions 3 et 4. Quel est le signe de la fin des temps? Et quel sera le signe de ta venue? Donc, on peut dire, questions 1 et 2 en rapport avec le temps du début, 3 et 4 en rapport avec le temps de la fin. Nous allons considérer ensemble la réponse du Seigneur en rapport avec le temps du début, la destruction du temple. Et ensuite, nous allons voir aussi la réponse du Seigneur concernant le temps de la fin. Et nous allons voir comme le Seigneur annonce des guerres mondiales, des tremblements de terre, etc. Mais là, se pose la question, mais comment de tels signes peuvent être des vrais signes de Dieu, parce qu'il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des révolutions, toujours eu des catastrophes, des tremblements de terre. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre. Ces événements, tremblements de terre, révolutions, guerres, sont-ils vraiment un signe de Dieu? Et nous allons trouver ensemble la réponse. Mais, lorsque le Seigneur commence à répondre à ces quatre questions, il parle aussi de cette époque du début jusqu'à la fin. Et met les disciples en garde contre des faux messies, des faux Christ qui viendront après sa venue. Donc cela n'est pas encore un signe des derniers temps. C'est simplement une mise en garde contre un danger qui aura lieu juste après la venue de Christ jusqu'à ce qu'il va revenir. Des faux messies, des faux Christ vont venir. Voilà, Matthieu 24, le Seigneur commence au verset 4. Et Jésus lui répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom et diront « Moi, je suis le Christ !» Et, n'est-ce pas, le terme « Christ », c'est grec pour le terme hébreu « Messie ».« Moi, je suis le Messie !» Et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, juste au verset qui suit, le Seigneur dit « Vous entendrez donc parler de guerre et de bruit de guerre. » J'ai été un peu stupéfait que dans les traductions en français, en général, ce « donc » manque. Et il est pourtant là, on a ce mot « des » en grec, dans le texte grec, et ce terme distingue en quelque sorte ce qui est dit au verset 6 de ce qui est dit du verset 5. Et nous allons voir que cela est le premier signe des derniers temps. Vous entendrez donc parler de guerre et de bruit de guerre. Là, le Seigneur parle des derniers temps, mais la mise en garde du verset 5, c'est quelque chose qui est une mise en garde en général en vue de toute cette époque entre la première et la deuxième venue de Christ. Eh bien, ici, vous avez une liste de plus de 50 faux messies qui sont apparus dans le judaïsme juste après la venue de Christ avec Théudas dans les années 44 à 46, ensuite le messie d'Égypte entre 52 à 58, le prophète sans nom, 59, Menachem, le Galiléen, vers 66, après Jonathan, le Tisséron, après 70, etc., etc. Vous allez voir sur cette liste, à travers tous les siècles, jusqu'au 20e siècle, jusqu'à notre époque, il y avait toujours de nouveau des faux messies, et qui parfois ont séduit des grandes sections du judaïsme. Comme par exemple, vous voyez Bar Kokhba entre 100 et 135 après Jésus-Christ, qui a séduit presque tout le peuple juif. Et par conséquent, il y avait dans cette guerre qu'il avait fait déclencher, il y avait plus d'un million de morts parmi le peuple juif. Et j'aime encore mentionner particulièrement Shabbatai Tzvi, un faux messie au XVIIe siècle, qui également avait séduit des grandes parties du judaïsme depuis Angleterre jusqu'en Perse. Et à la fin, c'est devenu une catastrophe. Les musulmans l'ont pris comme prisonnier, ils l'ont forcé de devenir musulman, et après tout le mouvement a été détruit. Mais voyez, ça va jusqu'au XXe siècle avec Rabbi Menachem Mendel Schneerson de New York, qui est décédé justement en 1994. Alors c'est terrible, puisqu'on a rejeté le vrai Messie, on était ouvert à recevoir tant de faux Messies qui ont toujours apporté la catastrophe et la déception, et même la dépression parmi le peuple juif. Eh bien, nous allons voir le temps de la fin, mais d'abord le temps du début. En Luc 21, d'abord, Luc décrit des réponses du Seigneur concernant les derniers temps et de ses signes. Mais tout d'un coup, en Luc 21, 12, le Seigneur dit « Mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison, et on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. » C'est fondamental de bien suivre le texte et voir. Mais avant tout cela, le Seigneur dit, maintenant je ne parle pas des derniers temps. Donc, je parle des événements avant les derniers temps. Et nous allons voir, le Seigneur répond dans les versets qui suivent à la question quel sera le signe de la destruction du temple, quand aura lieu la destruction du temple. Donc ici, mais avant tout cela, le Seigneur répond aux questions qui concernent le temps du début. Et vous voyez, le Seigneur parle d'une persécution de ceux qui croient en lui. Et nous pouvons bien déduire qu'il s'agit ici pas, par exemple, de la persécution des chrétiens par les marxistes, par l'Union soviétique, mais il s'agit d'une persécution juive. Vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison. Mais le Seigneur dit, cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Eh bien, la crucifixion a eu lieu historiquement à l'an 32 après Jésus-Christ. Et voilà, la résurrection du Seigneur est peu de temps après, quelques semaines plus tard, Pentecôte. Et depuis Pentecôte, les Juifs croyant en Jésus comme le Messie ont commencé à témoigner du Messie vis-à-vis du peuple juif. Et voilà la conséquence, arrestation des apôtres et persécution des Juifs chrétiens par le judaïsme. Et cela, vous pouvez lire dans le livre des Actes, Actes 3 à 8, décrit donc comme ils ont rendu témoignage, mais cela avait comme conséquence une persécution terrible de la part du judaïsme, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison. Et le Seigneur dit en plus, « Et on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. » Le terme « les gouverneurs » est intéressant parce que c'est le terme pour les Romains qui régnaient sous le pouvoir du César de Rome en Israël. Eh bien, lorsque vous lisez cette histoire d'Église de Luc, le livre « Les Actes des Apôtres », vous arrivez jusqu'au chapitre 23 et là vous voyez comme Paul, témoin et serviteur du Seigneur Jésus, est devant Félix, le gouverneur romain. Mais le Seigneur parle au pluriel devant les rois et les gouverneurs. Vous continuez à lire, vous allez jusqu'à Actes 25 et vous trouvez Paul devant Porcius Festus. Ah, nous avons appris à l'école, n'est-ce pas? Le pluriel, c'est deux, au minimum. L'an 59, 58 et maintenant 59. Donc, tout cela doit se passer avant la destruction du temple. Et voilà, le Seigneur dit, pas seulement devant les gouverneurs, mais même, on vous mènera devant les rois, aussi au pluriel. Eh bien, à l'an 60, vous trouvez en acte 26, Paul qui doit se présenter devant le roi Agrippa II. C'était un sous-roi du roi des rois de César, de l'empereur à Rome, soit l'an 60. Et voilà, puisque après ce procès, Paul fait appel au César, ou en rapport avec ce procès, il fait appel au César, et ainsi il doit aller vers Néron. Et dans la suite du livre des Actes, nous avons une description comme Paul va en voyage jusqu'à Rome pour finalement, à l'an 62, se présenter devant l'empereur Néron, le roi des rois. Maintenant, chaque mot est accompli. On vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Nous sommes déjà à l'an 62. Et maintenant, je continue à lire en Luc 21-20. Quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Voilà le signe de la destruction. Quand, après ce témoignage vis-à-vis du judaïsme et devant des gouverneurs et des rois, est le signe des armées autour de Jérusalem. Verset 21, « Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce sont là des jours de vengeance. » Eh bien, ce signe s'est accompli à l'an 68. J'explique vite l'arrière-plan. En 66, il y avait une révolution spontanée des Juifs en Galilée contre les Romains. Au début, des succès énormes contre les légions romaines. Mais dans la suite, les Romains ont apporté toujours plus de légions, finalement un tiers des légions de tout l'Empire romain qui allait jusqu'en Angleterre. On avait pris ensemble, rassemblé ensemble en Israël pour abattre cette révolution. Les Romains ont conquis de nouveau la Galilée, ensuite ils ont conquis tous les territoires en Jordanie actuelle, les territoires juifs. Et après, ils ont conquis la Judée, au sud d'Israël. Et ensuite, ils sont allés au long de la mer Morte. Ils ont passé à Qumran. Ils ont détruit cette communauté de Qumran qui, juste avant, avait encore évacué les rouleaux dans les cavernes. Ensuite, les légions sont montées à Jérusalem et ils ont mis les camps autour de Jérusalem. Et voilà, les Juifs messianiques, c'est-à-dire les Juifs chrétiens qui croyaient en Jésus le Messie, ils ont compris, voilà le signe de la destruction de Jérusalem et du Temple. Ils ont pris la fuite, puisque le Seigneur annonce, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent. Mais n'est-ce pas, on aurait pu se demander, lorsque le Seigneur a tenu ce discours, mais quand il y a là une guerre, mais comment on peut encore prendre la fuite? Eh bien, les armées se sont placées autour de Jérusalem avec leur camp, et en ce moment-là, Néron, le César Néron, commet suicide. Et voilà! Un chaos dans l'Empire. Et à ce moment-là, le général Vespasien en Israël, qui guidait les légions, a arrêté la guerre. Parce que lui voulait devenir successeur. Et il est allé à Rome. Et puisque la guerre était arrêtée, les Juifs messianiques, les Juifs chrétiens, c'est la même chose, deux termes différents pour la même chose, ils ont pris la fuite. Ils sont allés sur les montagnes de la Cisjordanie pour franchir le Jourdain et sont allés à Pella. Et à Pella, le roi Agrippa, qui régnait là, entre autres, il les a reçus comme des citoyens de paix. Parce que le discours de Paul en acte 26 ne l'a pas amené à la foi. Malheureusement, mais l'a convaincu que les chrétiens ne sont pas un danger pour l'ordre et la sécurité du royaume romain. Et c'est pour ça qu'il les a reçus. Et ils ne sont plus allés à Jérusalem pour fêter la Pâque, pour aller au culte, au temple. Ils se sont séparés ainsi. Et voilà, entre deux, Vespasien est devenu empereur. Il envoie son fils Titus pour finir la guerre contre les Juifs. Printemps 70, Titus arrive, et c'était juste l'époque avant Pâques, n'est-ce pas? La Torah dit, chaque Juif mâle doit aller à Jérusalem pour fêter la Pâque. Donc, du pays entier, les Juifs sont allés à Jérusalem pour égorger les brebis. Et voilà, même de l'étranger, ils sont venus. Jérusalem était remplie de, comme un témoin oculaire de l'époque, l'écrit Joseph Flav dans ses écrits, de 2,7 millions juifs. Et lorsqu'ils étaient tous là à Jérusalem, bien sûr, sans les juifs chrétiens, parce qu'ils n'allaient plus à Jérusalem. Le texte l'avait dit. Il ne faut plus aller à Jérusalem. Eh bien, Et lorsque la ville était pleine, Titus a fermé définitivement le siège. Et après 140 jours, Jérusalem était une ruine et le deuxième temple était détruit complètement. Et voilà, plus d'un million de morts parmi le peuple juif, mais pas d'un seul juif messianique, il est connu qu'il soit mort. Parce qu'ils ne sont plus allés, ils ont écouté la parole du Seigneur sur le mont des Oliviers, et vous voyez, ils ont pris le message littéralement. Et c'est pour ça qu'ils étaient sauvés. Voilà, la destruction du temple à l'an 70. Et tout cela est donc depuis longtemps accompli, mais cela nous aide à comprendre mieux comment interpréter les réponses du Seigneur en vue de la fin des temps, de la fin de cette longue époque entre la première et la deuxième venue de Christ, du Messie. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, a annoncé, après la venue du Messie souffrant et son rejet, le peuple juif sera dispersé dans le monde entier. Et voilà, le Seigneur le répète en Luc 21. Car ce sont là des jours de vengeance pour que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Mais quel malheur pour celles qui seront enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations. Alors le Seigneur explique, dans la suite, va s'accomplir la prophétie concernant la dispersion mondiale des Juifs. Et pendant toute cette époque où les nations non juives domineront, ils vont également dominer sur la ville de Jérusalem. Elle ne sera plus une ville juive, mais pas pour toujours, jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations. Dans les derniers jours, ça va changer. Et voilà, les prophètes avaient déjà annoncé le rassemblement du peuple juif au temps de la fin, ce qui n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Mais la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Christ. Juste pour vous montrer l'usage de cette expression, en Ézéchiel 38, verset 8, Dieu parle d'une nation qui va, dans l'avenir, attaquer Israël depuis le nord extrême. Et là, nous lisons, à la fin des années, c'est-à-dire à la fin des jours, tu viendras dans le pays. Cet ennemi viendra dans le pays d'Israël. Tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle. Vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples. Alors vous voyez, ce qui est typique pour la fin des années, la fin des jours, la fin des temps, c'est le retour des Juifs. Les Juifs rassemblés dans leur pays. Sortis d'entre les peuples. Et ce qui est remarquable, nous vivons dans cette époque. Et cette époque du temps de la fin a commencé lorsque les Juifs en masse ont commencé à retourner au pays des ancêtres. La première Aliyah, la première. Le premier retour des Juifs en masse a eu lieu à l'an 1882. Et voilà, après le deuxième retour, troisième, quatrième, jusqu'à aujourd'hui, plus de 3 millions de Juifs des cinq continents du monde sont retournés de plus de 100 pays différents. Et voilà Ézéchiel 36, 24 qui parle de cette époque. Dieu dit, et je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre terre. Ici, il est aussi expliqué à qui appartient ce pays. Vous voyez donc, le temps de la fin, c'est une période déjà de presque 129 années. Et vous voyez, ça a commencé par le signe fondamental, le retour des Juifs. Et voilà, la prophétie nous explique que dans un processus, les Juifs vont retourner. Et ce processus dure depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui, 2011. Et à la fin de cette époque, Jésus-Christ reviendra comme roi du monde, comme juge du monde. Mais entre deux, il y aura tant de prophéties qui devraient s'accomplir depuis la première venue des Juifs, le premier retour des Juifs, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la venue de Christ. J'ai indiqué cela par ces traits verts. Oui. Et pour moi, j'ai systématisé les prophéties déjà accomplies depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je peux bientôt publier une liste de plus de 160 prophéties. Précis. Et voilà les indications du Seigneur dans le discours sur le mont des Oliviers fait partie de ces 160 prophéties accomplies. D'ailleurs, le temps du début était aussi clairement une époque qui est distinguée du reste de cette longue période où les Juifs étaient dispersés dans le monde entier sans État. Et voilà le temps du début, n'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ est venu, Jean, 1 Jean 1, verset 1er, dit « ceux qui étaient dès le commencement ». Donc, le commencement, c'est la venue de Christ à Bethléem. Et dans sa vie, tant de prophéties messianiques se sont accomplies. En tout, plus de 300 prophéties accomplies. Là, j'avais aussi fait une liste de ces prophéties accomplies. Et voilà, jusqu'à cette prophétie de la destruction du temple et de la dispersion des Juifs. Mais à l'an 70, on a au début pensé, maintenant l'État juif est détruit. Ah non, pas l'État juif. Les Juifs se sont très vite réorganisés. Et finalement, ils ont fait une deuxième révolution contre Rome sous ce faux messie Bar Kokhba. Et voilà, l'empereur César, à 135, il a définitivement détruit l'État d'Israël. Encore une fois, déjà à l'an 70, 1 million de morts. Encore une fois, 1 million de morts parmi le peuple juif. Et alors là, il n'y avait plus d'État juif. Voilà l'époque de la dispersion du peuple juif. C'était une période de 135 années.